Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Avec ma femme d'aujourd'hui, c'est une belle discussion féminine pour rétablir certaines idées reçues que nous allons avoir. On y va pour les détails.
Médien. Yasmine. Femme d'aujourd'hui.
Ya'afaf Aboudoulama, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Ya'afaf?
Oh, alhamdoulilah, tout va bien. Quand on est au pays, tout va toujours bien.
Alors, super. Quand on est au pays, toi, tu es née en France, c'est ça?
Oui, exactement. Je suis née à Paris un 7 août 1979.
Ok. Et donc, tu as grandi en France?
Exactement. J'ai fait mes études en France, j'ai grandi en France et en plus, plus spécifiquement, à Paris.
Ok.
Une vraie Parisienne.
Une vraie Parisienne. Tu avais enfant justement et ado, tu avais quel rapport, quel lien avec le Maroc?
Alors écoute, comme tous les enfants de ma génération, nous on a appris à venir au Maroc tous les ans l'été. C'était vraiment notre point de repère. C'était ces 2 mois fantastiques qu'on préparait pendant... presque toute l'année pour venir au Maroc.
Alors là, c'est différent, parce que là, tu travailles entre la France et le Maroc, c'est ça?
C'est exactement ça.
Okay.
Aujourd'hui, à travers mon activité, et aussi par souci un peu de rendre au pays de mes parents ce qu'a apporté dans ma jeunesse, ce qui a fait que je suis la femme d'aujourd'hui, c'était pour moi quelque chose de très important de pouvoir collaborer avec le Maroc.
Alors, dans ton activité, c'est que tu es une spécialiste médiasport, c'est ça?
C'est exactement ça. En fait, moi, je me suis spécialisée il y a presque 10 ans maintenant dans le sport business et l'e-sport business, c'est-à-dire les jeux électroniques et notamment les compétitions ces jeux qui ont explosé pendant le Covid, mais qui étaient quand même une économie assez mal connue en fait des entreprises.
Alors quand tu dis c'est pour rendre au pays de mes parents, tu as pas dit mon pays, tu as dit alors au début tu as dit ça fait plaisir d'être au pays, donc en référence au Maroc, mais après tu as dit le pays de mes parents en fait.
Oui, parce que en fait, c'est une bizarrerie, on va dire, de la diaspora, c'est que on se sent pleinement marocain, ça c'est une certitude, mais néanmoins, on a grandi en France et on a les codes français, ce qui veut dire que parfois, on se sent être dans un pays qui nous ressemble physiquement, par la langue, par la culture, et des fois on a l'impression d'y être complètement éloigné. Et c'est vrai que passer des vacances, ça ne fait pas de vous, en fait, pleinement, comment dire, citoyenne d'un pays.
Ouais.
C'est comme ça que je le ressens, en fait, en grandissant, en fait. Parce que mes vacances, quand on les passe, on les passe aussi dans un cadre. Les vacances, c'est toujours idyllique, on ne voit pas certaines choses. On va être complètement transparent, nos familles, nos amis, quand ils nous voient ces 2 mois, c'est la joie de nous recevoir. Et c'est vrai que je le vois avant tout comme mon pays, mais aussi le pays de mes parents, parce que la France reste quand même le pays qui m'a un peu façonnée, en fait, dans mon parcours.
Ouais. Alors, quand tu dis « on ne voit pas forcément ce qui ne va pas », maintenant que tu viens souvent au Maroc pour travailler, justement, si tu peux aussi nous dire qu'est-ce que tu viens faire exactement, qu'est-ce que tu vois qui te déplaît, en quelque sorte?
Ce qui me déplaît, c'est que...
Et qu'on pourrait arranger, justement.
Oui, tout à fait.
Pour améliorer ton expérience Maroc.
Alors, je trouve que ça a bien changé quand même depuis maintenant... 5 ans que je viens régulièrement au Maroc pour le travail, c'était la place de ce qu'on appelle les Marocains du monde dans la société marocaine. C'est-à-dire que les codes du business, quoi qu'on en dise, et ça c'est pour le monde entier, sachant que moi, ayant collaboré avec des médias business que tout le monde connaît, hein, comme Forbes, que ce soit sur Forbes Afrique ou Forbes France, notamment sur Forbes Afrique, j'ai pu découvrir en fait les codes business en fait de tous les pays. Et chaque pays a ses spécificités. Si vous faites le tour de l'Afrique, parce que l'Afrique ce n'est pas un pays mais un continent avec 54 pays, le business n'est pas la même en RDC que si vous allez en Côte d'Ivoire. Et le Maroc, justement, il y a aussi ses propres codes business. Et il est vrai que nous, les Marocains du monde, et peut-être moi je parle des Français parce que c'est le pays où j'ai grandi, on arrive avec nos codes français. Et malheureusement, ben, on n'est pas adapté en fait totalement à la façon dont le business se fait dans les pays d'origine. Et c'est vraiment cette petite chose, je trouve qu'en fait, l'accompagnement, notamment entrepreneurial pour les Marocains du monde, c'était quelque chose qui n'existait pas vraiment. Mmh. Et de plus en plus, comme on voit aussi cet appel de Sa Majesté à ce que aussi les talents du monde viennent aussi travailler dans ce qui est notre pays, mais qu'on appelle le pays souvent de nos parents, nous a forcé nous-mêmes à devenir encore plus marocains. On apprend aussi de nos erreurs, on apprend aussi de aussi nos réussites, on se dit super, et il est vrai que parfois il faudrait qu'on se détache un petit peu de ce que nous on a appris en France.
Ouais.
Et de rentrer plus dans la marocanité du business.
Ouais.
C'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié, parce qu'en fait, c'est formidable, c'est un enrichissement.
Voilà. Mais c'est vrai, tu as parfaitement raison, parce que maintenant, on voit beaucoup de Français, par exemple, aller s'installer à Dubaï. Ils n'emmènent pas avec eux leur mindset français, ils s'adaptent au pays d'accueil. Même chose pour tous ceux qui se lancent en Thaïlande, aux États-Unis, etc. Il y a un mindset business propre à chaque culture, en fait. Et donc ces personnes qui vont d'un pays à un autre, en l'occurrence de la France vers ces autres pays, s'adaptent au pays d'accueil.
Écoute, moi je pense qu'il y a un syndrome, mais ça ce n'est pas que propre au Maroc, hein. C'est propre aussi aux autres pays francophones. Il y a un syndrome de la colonisation,
ouais,
qui est loin mais qui est en même temps si proche.
Ouais.
Et après, ça c'est des spécificités aussi de chaque pays. Il y a une petite arrogance quand même française, hein, qui est quand même agaçante, et je parle pour tous en fait, de vouloir faire en sorte que le Maroc est encore le Maroc d'hier. Et le Maroc a changé. Les jeunes ont changé, les envies ont changé, et la manière de faire a changé. Donc, nous, on arrive, et que ce soit aussi les Français, hein, et ça, tu as tout à fait raison. Moi, j'ai travaillé au Japon. Je peux t'assurer que quand tu travailles au Japon, tu t'adaptes aux Japonais. Mmh. C'est pas eux qui s'adaptent à toi.
Absolument.
Tu vas travailler en Chine, alors là, je peux t'assurer que c'est la même chose. Mmh. Et c'est même, en fait, très mal élevé, si tu veux tout savoir, de ne pas respecter la culture de l'autre. Et nous, les Marocains du monde, maintenant, on est quand même sur une troisième génération. Quand je vois aujourd'hui mes petits-neveux qui ont tous deux, trois nationalités, c'est quand même assez incroyable. C'est une obligation, mais en même temps, ça y est, on a appris. Moi, j'ai l'impression vraiment, quand je viens, quand je vois ma génération et la génération d'après, on arrive d'une part humble, parce que ça, c'est vraiment important d'être humble quand on est dans un pays. Et deuxièmement, on enlève à la douane notre casquette de gens ayant grandi en France ou habitant en France pour être dans l'écosystème marocain. Et ça, je trouve ça formidable, parce que c'était quelque chose qui nous manquait, nous, en tant que Marocains du monde, pour la plupart, hein, je ne dis pas tous, mais si on regarde, il y en a beaucoup qui ont perdu la langue. Il y en a certains qui ne parlent même plus, que ce soit le chleuf pour les chleufs.
La mazir, oui.
Le Amazir, parce que il y a eu une espèce de comme ça de marocanité qui est partie, et elle, je trouve qu'elle revient, et elle revient d'une belle manière. Mm. Et ça fait vraiment plaisir.
Alors toi, tu viens au pays, comme tu dis, pour faire quoi exactement?
Écoute, moi, dans le cadre de mes activités, il va y avoir de belles compétitions qui vont arriver au Maroc, Inch'Allah, donc la Cannes en fin d'année, qui est quand même un événement très important sur le continent, mais pas que, parce qu'il emporte aujourd'hui de plus en plus. La Cannes est regardée énormément en Europe, mais dans le monde entier, donc c'est un événement majeur. Et la Coupe du Monde en 2030, qui est le Saint Graal du sport. Mon idée à moi, c'est l'expertise, le Maroc là, hein, puisqu'ils ont remporté quand même cette échéance avec, avec brio, mais d'accompagner les entreprises françaises qui souhaitent aujourd'hui s'installer au Maroc, mais qui en fait n'y arrivent plus ou n'y arrivent pas très bien pour des raisons qui font que le Maroc aujourd'hui est demandé par le monde entier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Maroc travaille avec aussi bien les États-Unis, les Japonais, on le voit sur des très belles coopérations, avec énormément de pays qui sollicitent le Maroc et s'ouvrent vers le Sud. Aujourd'hui, le Sud-Sud, qu'on appelle cette zone jusqu'à, j'espère, l'Afrique du Sud, mais c'est plutôt jusqu'à Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, Mauritanie et autres, Bénin d'ailleurs aussi, et Gabon. Les Français, parce que je parlerai des Français, parce que les Européens, c'est encore particulier, les Espagnols ont très bonnes relations, les Allemands n'ont pas n'ont pas été dans cette colonisation francophone, de ce côté-là en tout cas. Et elles ont du mal, elles ont envie, mais en fait le Maroc est devenu la porte d'entrée de l'Afrique pour ces entreprises. Mais pour le faire, elles ont besoin de s'installer, elles ont besoin de comprendre l'écosystème, mais de réapprendre. Parce que en fait, ce qui se faisait avant ne se fait plus aujourd'hui.
Ouais.
Voilà. Donc,
mais alors, pardon, Afaf, quel lien entre, justement, l'envie de ces entreprises françaises de venir s'installer au Maroc, le sport,
ouais.
OK, donc la CAN, la Coupe du Monde, c'est quoi le lien entre tout ça, en fait?
En fait, aujourd'hui, la Coupe du Monde, surtout, parce que la CAN, on y est, et puis... tout est très, très bien rodé et dirigé. La Coupe du Monde nécessite énormément d'infrastructures. C'est-à-dire qu'il y a un cahier des charges qui est demandé par la FIFA, qui est quand même l'organisation la plus puissante du monde au niveau du sport. Hein. La FIFA, c'est extrêmement puissant. Et ce cahier des charges englobe énormément d'opportunités business.
Okay.
C'est-à-dire les infras, c'est pour les stades, donc qui doit être aux normes FIFA. L'hôtellerie, c'est vraiment le moment aussi pour le Maroc de moderniser encore plus certains établissements, pas tous, hein, bien évidemment. Donc en fait, les opportunités, elles sont diverses, mais encore une fois, comme je te disais, la France n'est plus seule sur le marché. Donc c'est un travail à faire avec les entreprises qui viennent nombreuses, qui viennent avec énormément de délégations, que ce soit Business France, des pays ou bien d'autres, à mieux comprendre aujourd'hui comment remporter ces appels d'offres. Parce que c'est une grosse concurrence.
Okay,
voilà.
Ok. Alors, toi, en tant que femme d'aujourd'hui, la femme qui est devenue, justement, que tu es devenue aujourd'hui, qui t'a poussée à... ou qui a nourri, en fait, finalement, cette préservation du lien, de ce pont entre les deux rives dans lesquelles tu as grandi?
Ma grand-mère. C'est clairement ma grand-mère. Parce que on a vraiment eu cette chance de pouvoir venir chaque été au Maroc, d'y passer 2 mois, et par la suite, bon, il faut être transparent. Nos parents sont arrivés en France pour travailler. On parlait l'arabe à la maison. On vivait comme des citoyens français, mais on a gardé quand même tous ces liens avec la diaspora, donc c'est les fêtes, c'est les rites, c'est des petits rituels de se retrouver pour ne pas perdre les racines. Et puis, après, il y a quelque chose qui ne se, voilà, se décrète pas. On est marocain, on est à vie, en fait. Et c'est vrai que de revenir, de pouvoir... contribuer et pouvoir m'épanouir au Maroc, c'est quelque chose qui est formidable. Et ça, on peut faire le tour du monde, comme on dit, vous pouvez habiter n'importe où. Un Marocain, il veut revenir au Maroc. C'est le point.
Alors, tu parles d'épanouissement, justement. En tant que femme, est-ce que tu retrouves cet épanouissement ici?
Mais moi, complètement. Je trouve que le Maroc est un pays, de toute façon, depuis toujours, extrêmement féministe. Quand je vois l'histoire de ma grand-mère, quand on voit le chef de famille qui était ma grand-mère, moi, je n'ai jamais senti, en venant au Maroc... la place de la femme est hyper importante au Maroc. Ça, c'est sûr et certain. C'est la mère, c'est le chef de famille, c'est le chef de l'entreprise. Je parle de l'époque de ma grand-mère. Donc, en tant que femme, je n'ai jamais senti au Maroc que je n'avais ni ma place, ni la possibilité d'évoluer ou de faire quoi que ce soit. Et ça, c'est super important. Et il est vrai que l'éducation... que moi j'ai eu de ma grand-mère et de ma mère également, hein. Mais c'est vrai qu'avec ma mère on a très peu d'écart, on a que 20 ans d'écart, donc les codes sont un peu, on va dire un peu similaires.
Oui.
Ça a toujours été le travail et ne compter que sur soi-même entre guillemets, c'est-à-dire
pas sur un homme.
Faire. Ouais. Mm. Mais ça à tout le monde en général, c'est quelque chose qui a toujours été hyper important. D'être indépendante. Mm. Et ça, c'est aussi dans la culture. Enfin, moi, ma famille vient du sud du Maroc, donc on est nous au niveau de Zagora. Et dans le village donc de Eid Bono, en bas de Tamglout, les femmes et les petites filles sont éduquées à être indépendantes. C'est-à-dire, si le mari va travailler pendant 6 mois... de l'autre côté du Maroc, ce qui arrivait très souvent, hein, il partait pendant très longtemps et revenait, il fallait pouvoir s'occuper de la maison, s'occuper des choses les plus essentielles, gérer le budget. Et ça, c'est quelque chose vraiment que moi, j'ai appris avec, dans cette culture marocaine. C'est vraiment de savoir être indépendant et se débrouiller.
Alors justement, être une femme a beaucoup bougé. Est-ce que finalement, oui, tu perturbes un peu le modèle familial puisque tu es amenée à beaucoup te déplacer?
Alors, je me déplace énormément, avant encore plus. Non, parce que en fait, moi, je me suis mariée tard pour des raisons qui ne sont pas que je n'ai pas trouvé l'âme sœur. C'est que je voulais d'abord m'établir complètement et de façon épanouie comme femme. Alors après, c'est un caractère. Hein. Moi, je voulais être complètement indépendante. Complètement, oui. Je voulais être professionnellement complètement indépendante, financièrement aussi, complètement indépendante, avant de choisir mon mari. Et on s'est choisi, en fait, parce que justement, on a tous les deux cette indépendance et, un épanouissement professionnel aussi, tous les deux. Donc, on s'entend très bien, on échange énormément, il me pousse énormément à entreprendre, qui est vraiment difficile, hein, l'entrepreneuriat quand même, d'aller jusqu'au bout de mes rêves. Et ça, c'est super important quand on est épaulé de cette manière-là, quand on veut justement, en tant que femme, pouvoir continuer une activité professionnelle, parce que ça peut être vite oppressant.
Absolument. Si, vous êtes pas heureuse. Absolument. Voilà. Absolument. Ça peut être oppressant, ça peut être source de problèmes, manque de sérénité, voilà, ça c'est une réalité en fait.
C'est vrai qu'autour de moi, je vois les femmes de ma famille ou des amis, elles ont toutes une profession plutôt même managériale, elles sont indépendantes, elles ont des entreprises. Et c'est là où je vois vraiment que quelque chose s'est installé au Maroc, qui est vraiment ce féminisme et ces hommes ici qui poussent leurs femmes à entreprendre et avoir une activité et avoir leur business. C'est quand même assez formidable.
Oui, absolument, absolument. Et puis quand on est épaulé par sa moitié, il ne faut pas avoir honte en fait de le dire, parce que des fois on a l'impression que le women empowerment, c'est vraiment, ça émane de la femme toute seule et seule, et il n'y a qu'elle qui fait bouger les choses, alors que derrière on peut avoir un frère, un père, un mari en fait qui nous pousse, et il ne faut pas avoir honte de le reconnaître et de le dire.
Mais moi je en ayant collaboré énormément donc dans les classements des femmes Forbes et autres. Et de mon travail, je rencontre énormément de femmes chefs d'entreprise. Je ne suis pas dans ce discours, non, la femme plus forte, la femme oppressante, pas du tout. C'est un tout. De toute façon, la vie, c'est un tout. Un arbre ne pousse pas sans pluie. Il faut des racines. En fait, c'est un tout qui fait quelque chose. Et bien sûr que derrière chaque homme, il y a une femme. Mais derrière chaque femme, il y a un homme aussi.
Ouais.
Et généralement, les femmes qui arrivent à aller très loin, bien sûr qu'elles ont un homme qui, derrière, les pousse. Moi, je prends souvent l'exemple, et c'est parce que c'est un exemple que je vois et que j'ai connu, comme Simone Veil, par exemple. Son mari était dans l'ombre d'elle, ou même Angela Merkel, par exemple, si on pouvait prendre quelqu'un d'autre derrière. Je pourrais donner des noms aussi, évidemment, de femmes africaines. Elles ont été épaulées par leur mari. Leur mari ou conjoint ou partenaire.
Exact, absolument, absolument. Et absolument, il y a pas mal d'exemples de femmes que j'ai eu l'occasion d'interviewer aussi dans ce sens-là. Je pense à Wafa Sharkawi, qui est professeure de physique nucléaire à l'international, un grand nom, justement épaulé par son mari. Je pense à Nzahas Qali, ancienne ministre, elle aussi, qui a parlé du rôle joué par son mari, que ce soit pour ses études, que ce soit pour sa carrière politique. Je pense aussi à Madame la ministre Amal Fellah Sgharoujni, ministre de la transition numérique. Toutes ces femmes-là, en fait, ont un homme dans leur vie et c'est un duo en réalité. C'est un duo. Et quand on accepte d'être un duo, finalement, on n'en sort que plus fort. Voilà, ça nous permet aussi un petit peu de corriger ce discours, de ne pas être dans le féminisme extrême, mais d'être dans la fluidité humaine, en quelque sorte.
Bah, moi, je suis assez d'accord. Et puis, je pense dans la vie, on n'est pas en confrontation.
Ouais.
L'épanouissement ne va pas avec la confrontation.
Confrontation, absolument.
L'épanouissement va avec la bienveillance dans une vie, dans un couple. Et voilà, moi, avec mon mari, on est sur la confiance, le partage, et surtout, ce qui est très important pour les femmes, et quelles qu'elles soient, hein, chef d'entreprise ou chercheur ou même femme au foyer, c'est d'être épaulée, de se sentir, en tout cas, nous inciter, comme nous, on incite le mari aussi. Hein,
absolument, absolument.
Parfois, c'est souvent, il y a des grands hommes qui sont devenus importants parce que d'ailleurs une femme les a poussés, parce qu'elle les a soutenus dans les bons et les mauvais moments.
Absolument.
Et ça, c'est impératif.
Ben, en fait, c'est comme si on attendait ça naturellement de la femme, mais quand c'est la femme qui l'obtient, ça devient plutôt un cadeau, en fait.
C'est aussi une problématique aussi chez nous, les femmes, en général, mais pas toutes, hein, évidemment. Quand un homme vous soutient, ça ne veut pas dire que vous êtes dépendante de lui, et ça ne veut pas dire que vous êtes soumise à votre conjoint. Quand un homme vous soutient, c'est parce qu'il vous aime et qu'il a envie que vous soyez épanouie. Et moi, je le prends vraiment comme ça, comme une preuve d'amour, quand vous êtes soutenue par votre mari, par votre père, par votre frère. Je ne vois pas derrière, de dire qu'on a réussi seul. Je ne connais personne au monde, vraiment, hein, qui réussit seul, en fait.
Ouais.
On a toujours des gens.
On a toujours quelqu'un, en fait. On a toujours quelqu'un. C'est une réalité. Exactement.
Ça, c'est une vraie.
Ouais. Eh bien, Afaf Aboudoulama, merci beaucoup d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Merci pour cette jolie discussion féminine.
Écoute, merci beaucoup à toi et merci aussi à travers ton podcast et ce que tu fais. De donner la parole à toutes les femmes et aux femmes avec différents parcours et personnalités. Et écoute, je te souhaite le meilleur également pour la suite.
Merci infiniment, Afaf. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.